Ouais, presque un peu médical, parce qu'en fait, la science-fiction construit des univers qui sont beaucoup plus froids et beaucoup plus cliniques que ce que l'on pense, hein. C'est pas des univers colorés, réjouissants. C'est plutôt des univers où il fait pas de bon vivre, où on doit résister. Et l'idée de cette première salle, qui est effectivement toute blanche, c'est de travailler sur cette idée qu'on a dans un film comme THX 1138 ou dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça veut dire des ambiances toutes blanches où on n'a pas de repères. Finalement, c'est un peu ça la science-fiction pour la plupart des gens. On n'a pas de repères, on ne sait pas quels sont les repères importants. C'est pour ça que dans la salle, vous ne voyez pas de date, mais vous avez ces espèces de dispositifs, qui sont des écrans tactiles, qui, lorsqu'on les bouge, on a une date qui avance et qui permet de pouvoir voir ce qui est sorti en 1912 ou en 1915, puisque lorsque j'appuie sur un document, je vois apparaître et le livre avec les informations nécessaires. Et donc, je peux pouvoir voir ce qui est sorti dans les différentes années.
Donc là, on suit toutes les décennies, on est parti dans les années 1900, et puis on arrive jusqu'où ?
Jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'aux années 2000. Et ce qui est intéressant pour cette expo-là, hein, puisque chaque expo a son lot de choses intéressantes, hein, puisque chaque chose va changer tout le temps, hein, on voit que même les textes sont sur des plaques qu'on peut enlever, et donc on peut facilement changer tous les objets de l'expo. C'est par exemple, les années 80, c'est un moment important dans l'histoire de la science-fiction. On voit apparaître le manga en Europe avec Akira ici. On voit apparaître un sous-genre qui est assez connu à cause du film Matrix qu'on appelle le cyberpunk. On voit apparaître aussi le jeu de rôle de science-fiction. On voit comment la science-fiction en fait vient contaminer différents supports. Au début, c'est que du livre. Puis gentiment, c'est très rapidement le comic books, puis la BD, puis le jouet dans les années 50. Puis ensuite, on commence à avoir justement différents supports, le jeu de rôle, le manga, jusqu'à la science-fiction contemporaine. On voit dans les années 2000, par exemple, que les ouvrages de science-fiction ne sortent plus dans des collections forcément labellisées SF. Là, on a mis exprès le roman très science-fictionnel de Michel Houellebecq qui s'appelle La possibilité du Nil, qui sort dans le livre de poche, sans collection. On n'est plus dans la SF, c'est plus labellisé SF. Ou alors des objets qui deviennent des objets de collection. C'est-à-dire seulement le jouet, le robot, n'est plus seulement un jouet pour enfants, mais un jouet produit minutieusement pour des collectionneurs et vendu à des prix très élevés. C'est aussi une manière de montrer comment la science-fiction finalement s'institutionnalise, devient partie de notre temps. Et donc on va trouver des romans qui n'ont plus besoin de se proclamer SF, où on voit des objets qui deviennent des objets non plus à bon marché, mais des objets qu'on peut acheter à des prix assez élevés, parce que c'est un objet de collection produit à très peu d'exemplaires, ce qui aurait été aberrant dans les années 60 ou 70.
Et donc ça veut dire aussi que ceux qui ne connaissent pas la science-fiction, qui sont peut-être un peu rétifs à la science-fiction, vont entrer dans ce monde de la science-fiction par un auteur beaucoup plus classique.
Le problème, c'est que la science-fiction, c'est un mot, puis c'est un mot très stéréotypé, ou plutôt qui génère beaucoup de stéréotypes. On est dans un musée. Qu'est-ce qu'on fait dans un musée ? On voit le patrimoine mémoriel de l'humanité. C'est un lieu de mémoire, le musée, avant tout. Le musée, c'est quelque chose qui vient parler d'une tradition, qui vient montrer comment cette tradition s'est construite, comment elle s'est développée, quelles sont ses ramifications, pour les fans et les non-fans. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'exposition Souvenirs du futur, c'est qu'on n'est plus dans quelque chose pour les fans uniquement, puisque quelqu'un qui verrait La possibilité du Nil, quelle est la première question qu'il peut se poser ? Qu'est-ce que Houellebecq fait à la maison d'ailleurs ? Bien sûr que je pourrais lui mettre la réponse, parce que je l'ai, puisque La possibilité du Nil raconte l'histoire de clones qui viennent interroger leur première incarnation, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la personne qui va dans un musée, lorsqu'elle voit ce livre-là, elle a envie de découvrir par elle-même. Parce que si on apporte toutes les solutions, alors ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de textes. Le but, c'est de susciter des interrogations. Les guides du visiteur ou les catalogues d'expos sont là pour y répondre. Mais si on répond à tout dans un musée, alors à quoi bon y aller ? Moi, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un musée. Le premier pas qu'on a fait, c'est de dire un musée, c'est quelque chose qui s'adapte tout le temps. Et ça, c'est le concept Souvenir du futur qui change à chaque expo. On va voir comment ça marche. Et puis si ça marche bien, je souhaite la vie. Et puis si ça marche pas bien, ben, on va réfléchir peut-être pour donner un truc de plus. Alors par exemple du texte, etc., etc. Donc le but, c'est d'abord de susciter de l'étonnement. Et si vous suscitez pas d'étonnement dans un lieu culturel, alors il faut changer de métier.